Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission de vendredi 12 septembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en progression de 1%, 115 500 dollars quasiment, plus 3% pour Ether qui reprend les 4550, plus 6,62 pour Solana juste sous les 240 dollars qui se hisse au-dessus du BNB au market cap, quatrième place, 130 milliards de capitalisation. Et bien le Solana donc qui nous a poussé 16% sur la semaine, 20% sur le mois. On a Dogecoin également qui petit à petit est en train de rattraper tout ça avec plus 5%, plus 3, quasi plus 4 pour Chainlink et Hyperliquid, respectivement à 16 et 15,5 milliards de capitalisation. Donc on a Hyperliquid à 57 dollars désormais et le Chainlink juste sous les 25 dollars. Et ensuite on a des performances comme ça qui sont à plus 2, moins 1, moins 2. Voilà, on est à plus 2, moins 2 grossièrement. Ondo qui est à plus 8, plus 20 sur la semaine. On a également dans le top 40 à peu près Pudgy Penguins qui pour sa part est à 28% sur la semaine et le top 50 qui se clôture avec GateToken, Render, VeChain, Algorand qui sont tous désormais au-dessus de 2 milliards de capitalisation et c'est ce qu'on va voir dans un instant. On est vraiment sur une zone clé désormais et c'est le moment où ça passe ou ça casse, c'est l'accélération, c'est l'alt season, c'est l'automne qu'on a tous tant attendu qui pourrait se déclencher en effet si tout ça venait à passer. On va le voir dans quelques instants. En tout cas pour l'instant, depuis le point récent de début septembre autour de 107 000. On est dans un canal parallèle ascendant ici. Alors normalement, ça c'est considéré quand on est comme ça à court terme dans une trend un peu plus corrective et baissière comme un signal plutôt bearish puisqu'on pourrait derrière reporter l'amplitude à la baisse et aller visiter quelque part autour des 100 000 dollars. On va croiser les doigts bien entendu que cette reprise de cette zone élargie à 112-113 nous permette de nous maintenir en hebdomadaire autour de 115 justement avec la clôture hebdo et par la suite pourquoi pas aller travailler un peu plus haut autour de 120 à 125 000 dollars. On aura besoin soit d'une stabilité soit d'une dernière poussée de Bitcoin pour avoir l'alt season, mais dans tous les cas on a besoin d'avoir un Bitcoin à minima stable. Les open interest ne sont toujours pas redirigés du côté de BTC, donc on n'a pas non plus une prise de risque complètement folle et le crypto fear and greed est à peine sur 57, toujours dans la neutralité, donc bien loin d'une quelconque euphorie. Le hash rate qui continue d'augmenter, c'était Martin qui mettait ça en avant. Pour la première fois, on a dépassé une zone clé. Alors, je ne sais pas en quelle mesure exacte c'est, puisque j'ai vu ZH. Donc, vous me direz, pour les professionnels des mathématiques, combien de H représente justement en milliers, centaines de milliers ou millions de H le ZH. Mais en tout cas, pour la première fois de l'histoire, eh bien, le réseau et la blockchain du Bitcoin ont atteint ce palier et ce qui démontre que les mineurs sont là. Ça se bouscule au portillon pour continuer de miner du Bitcoin et ça fait une bonne quinzaine d'années que ça dure et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Les quatre cavaliers espérons pas de l'apocalypse avec le crypto total qui est aujourd'hui juste sous les 4000 milliards, donc c'est une publication qu'on a poussée il y a quelques minutes du côté de Twitter. On espère bien entendu aller s'échouer quelque part entre 5000, 6000, 7000 milliards peut-être. Si c'est pas sur ce cycle, ça sera sur le cycle suivant. Le crypto 30 donc qui est l'index des 30 plus grosse capitalisation, lui aussi juste sur le pas de tir qui a été travaillé deux fois en 2021 et à nouveau deux fois entre 2024 et 2025. On est très très proche de cette résolution. C'est un peu le moment, comme je le disais à l'instant, de ça passe ou ça casse. Le crypto total 2 qui est aux portes également de la découverte de prix autour des 1700 milliards pour un ATH qui est à ce jour à 1710. Donc là aussi, on le voit en bas, contraction de RSI, c'est la quatrième ou cinquième fois qu'on touche sur ce cycle. Si ça passe, on passera de 66 à 80, 90 de RSI et on viendra chercher des targets donc en premier lieu autour de 2000 milliards, 2400, 2500, pourquoi pas 3000 milliards pour un crypto total 2 qui donc pourrait avoir une amplitude de quelque part entre plus 30, plus 40% si jamais ça se passait de façon relative par rapport à ce cycle. Et si vraiment on avait un emballement du côté des altcoins, en effet par rapport à la zone que nous sommes en train de travailler, on pourrait viser dans le meilleur des cas quelque chose de l'ordre de plus 100%, c'est-à-dire un fois 2 sur ce crypto total 2 des altcoins incluant Ether. Le crypto total 3, lui, excluant Bitcoin et Ether, j'avais pris le premier FIBO qui nous amenait autour de 38%, donc ça nous ferait passer de 1120 milliards à autour de 1500 milliards. Là aussi, ça me semble plutôt raisonnable. Et donc, avec ces quatre charts, je pense qu'on est à même de naviguer ce qui risque de se passer sur cet automne fin d'année 2025. Le S&P 500 qui nous a imprimé un nouveau point haut. Depuis le début de l'année, on est désormais en progression de 12,25. Et ceux qui ont payé le point bas en avril au moment des tarifs de Trump, bien entendu, sont largement en gain par rapport à ça, puisqu'on peut désormais compter environ à minima un plus 30%. Bon, précisément pour ceux qui auraient payé le point bas, donc on n'a jamais le point bas parfait, ni même le point haut, mais ça donne quand même un aperçu de ce qui est en train de se dérouler depuis 2020 sur les marchés financiers et notamment les États-Unis. On a BlackRock qui sera en discussion pour tokeniser les ETF après le lancement complètement fou des ETF sur Bitcoin. Donc c'est une énorme réussite de leur côté et ils veulent continuer sur ce côté-là. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous puisque ça nous permettrait tout simplement d'accéder aux ETF, le tout sans sortir des cryptos. On resterait sur un actif tokenisé. Donc crypto to crypto pour l'Europe, pour la France et tous ceux qui ont des taxations, eh bien ça pourrait être intéressant. Les inscriptions au chômage US montent à 263 000 au-dessus du consensus attendu des 235 000. Donc ça, c'est consécutif également à ce qui se passe au niveau de l'inflation. On avait une inflation estimée qui était autour de 3,1 et on l'a eu à 3,1 pour le core CPI. Donc les États-Unis qui avaient pour target cible, rappelons-le, au moment où on a eu bien entendu ce rebond inflationniste assez dingue, la target de environ 2%. Petit à petit, ils sont en train d'abandonner cette idée. Et pourtant, pour une fois, le bon élève se passerait éventuellement du côté de la BCE qui, eux, y sont parvenus, qui ont baissé les taux rapidement et tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets, du côté européen. Alors, c'est vite dit, puisque au niveau inflation, on le voit quand on fait nos courses et tout ça, on a beaucoup moins dans le caddie que ce qu'on avait quelques années au préalable quand on fait les courses et bon nombre d'autres achats. Mais en tout cas, d'un point de vue purement, on va dire, financier, eh bien, les taux sont revenus justement autour du 2%, tandis que les États-Unis, ils sont à 3% et qui plus est, ils s'apprêtent à baisser les taux et il y en a beaucoup qui appellent pour cet automne-là à avoir à minima deux baisses de taux. Certains disent une première de 0,50 suivie d'une 0,25. D'autres disent il faudrait baisser de deux fois 0,50 pour avoir un point d'un seul coup qui dégage. En tout cas, voilà, ça laisse quand même un questionnement latent quant à ce qui pourrait arriver en 2026 et notamment par rapport à un phénomène de stagflation, un rebond inflationniste qui continuerait, les tarifs de Trump qui, au moyen terme, vont commencer à montrer les effets délétères, notamment pour le consommateur américain. Et voilà, c'est beaucoup de petites choses, mais qui, à la fin, peuvent faire déborder le vase, un peu comme ce qui est en train de se passer en ce moment du côté des États-Unis. Et je ne rentrerai pas, bien entendu, dans l'aspect politique. On a le Bitcoin qui est à plus 741 millions d'inflows, c'était sur les dernières 24 heures, donc pour la journée de mercredi pour jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Et Ether était à plus 171 millions. Il y a également eu un fonds qui a acheté énormément de Solana d'un seul coup, ce qui probablement a créé aussi ce gros décalage, et Coinbase qui est toujours proche des 3 centièmes au niveau du rang de l'iOS Store à plus 11 rangs. Donc à partir du moment où Coinbase re-rentrera dans le top 100, voire le top 50, là on pourra considérer également que c'est un des principaux signaux de surchauffe. Avec Goku, Chainlink, UBS et DigiFT automatisent les opérations de fonds tokenisés d'UBS sur la blockchain dans le cadre du programme Cyberport de Hong Kong grâce au smart contract de Chainlink. Les ordres de rachat des investisseurs sont traités automatiquement, réduisant à la fois les frais et toutes les frictions. Vous avez l'émission d'hier avec The Block Insider Crypto Sapiens, avec lequel nous échangeons bien entendu au niveau des data on-chain. Il a toujours un avis qui est beaucoup plus optimiste que le mien, ce qui permet de créer une certaine neutralité, puisque comme vous le dites si bien, j'ai tendance à être un peu pessimiste ces dernières semaines et ces derniers mois, à juste titre, puisque on est quand même un peu sur la finalité de ce cycle. C'est un moment où on doit marcher sur des œufs et nous méfier justement de ce que nous offre en terminaison le marché ou non. D'un autre côté, est-ce que le cycle de 4 ans est révolu? Est-ce que les choses cette fois-ci vont être différentes? On a beaucoup de questions pour l'instant trop peu de réponses, mais les réponses vont venir justement sur le trimestre roulant. Également, comme le met en avant Mathias Bacino, on a eu Oracle qui a progressé de 40% en séance, propulsant son fondateur et CEO à la première fortune mondiale devant Elon Musk. Il a touché, je crois, autour de 400 milliards de valorisation à un moment donné en fortune, donc liée aux actions qu'il détient de Oracle. Oracle qui aujourd'hui fait son grand saut dans l'IA, un carnet de de commandes archi plein, l'infrastructure, le cloud, tout ce qui est serveur, enfin voilà, tout ce qui va bien quelque part dans l'économie portée par l'IA et par les data centers dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc cette action qui, en termes de capitalisation, a explosé de 40% en séance. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner derrière, mais en tout cas, c'était assez dingue ce qui vient d'arriver. Lisa Cook, souvenez-vous, avec Zone Bourse qui remporte une première bataille face à Trump, elle fait partie du fameux FOMC, c'est-à-dire la Fed qui décide justement de la baisse ou non de taux. Et c'est une personnalité qui a tendance à être plutôt sur le pan à la fois neutre, mais surtout de se dire on ne se précipite pas, le tout dans un environnement encore à 3% d'inflation. Et donc il voulait Trump directement la remplacer par quelqu'un qui ne mettrait pas son veto ou qui voterait favorablement à la baisse de taux. Et on voit que pour l'instant, il n'a pas l'air d'arriver, en tout cas au niveau constitutionnel, eh bien, à ses fins. Et c'est quelque chose aussi qu'il faudra observer, puisque comme vous le savez, à partir du moment où on a des ingérences politiques directes aux États-Unis vis-à-vis de l'indépendance de la Fed, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur au marché. Pour vous donner aussi un peu de profondeur à ce que représente aujourd'hui Nvidia, son market cap est plus grand que l'intégralité du stock exchange, mis à part les États-Unis, de la Chine, du Japon et de l'Inde. C'est ce qu'a révélé la Deutsche Bank. Donc c'est clair et net que cette bulle IA et cette bulle des semi-conducteurs, des chipsets et de voilà tout ce qui gravite de près ou de loin autour du sujet n'est pas prête de s'arrêter, en tout cas en apparence. Mais à partir de quel moment justement ça devient un peu critique, et surtout à partir de quel moment on va avoir un rattrapage du reste de l'économie ou non, vis-à-vis justement de ces ratios qui sont complètement déconnectés aujourd'hui d'une réalité qui peut être, oui, price longtemps à l'avance ce que sera l'IA de demain, mais il suffira un jour ou l'autre d'avoir un trimestre ou deux de résultats qui seront un peu en deçà des attentes pour probablement propager une certaine pile de dominos. Toujours autour de Nvidia, ils viennent d'investir dans une entreprise française et start-up grenobloise qui s'appelle Scintil Photonics. Ils ont levé 50 millions d'euros et autour de la table, on retrouve des géants américains et notamment comme Nvidia. L'objectif de cette start-up, fabriquer encore plus de circuits photoniques en silicium. Glassnode révélait que le ratio du short-term corrélation Bitcoin par rapport au gold a flip négatif. Donc on avait un retard finalement du BTC avec un gold qui continue d'empiler des bougies. Je crois qu'on a quasiment touché ou dépassé les 3700 dollars l'once. Donc on se dirige tout droit vers les 4000 qui devraient faire office de barrage un peu psychologique quelque part pour le gold. Et enfin, deux petites informations, dont une dernière que je clôturerai sur du hors-sujet. La première, c'est les réserves d'Ether et des trésoreries institutionnelles qui dépassent désormais les 20 milliards pour proche de 5 millions d'Ether répartis en 72 entités. La plus grande étant Bitmain, avec Tom Lee à sa tête. Et on a au 8 septembre plus 202 000 bitcoins. Donc petit à petit, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, puisque entre les Ether comme ça qui sont absorbés par le spot et les Ether qui sont stakés, on a aussi malgré tout une certaine rareté qui est en train de se faire. Et par rapport à l'IA, donc suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, et c'est assez difficile de se faire une idée entre ceux qui vont aller un peu sur le côté doomiste de la chose, c'est-à-dire très très pessimiste en mode l'IA va courir à la fin de l'humanité, du monde et tout ce qui s'ensuit, et ceux qui, à contrario, disent que tout ça n'arrivera jamais, que même avec aucun contrôle, il y aura jamais rien, que ça ne fera aucun mal, que de toute façon ça n'est pas prévu pour, etc. L'histoire nous a démontré que quand on laisse quelque chose complètement sans contrôle, au bout d'un moment, en général, ça a tendance à se gâter. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que dans ce qu'ils appellent, eux, l'alignement dans l'IA, il y a beaucoup de lobbies, au final, qui veulent accélérer plutôt que de mettre des garde-fous et de mettre des barrières. Alors au début, ils en avaient bien conscience tous, même jusqu'au Sam Altman de OpenAI, qui est derrière ChatGPT, etc. Vraiment les pontes de l'IA de la Silicon Valley, etc. Eh bien, ils étaient tout à fait conscients qu'il fallait allouer des ressources importantes à ce fameux alignement, c'est-à-dire pour pas partir dans tous les sens et pour pas ouvrir une boîte de Pandore sur laquelle on n'arrivera pas à renfermer le petit diable qui vient de sortir dans sa boîte. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un mood qui est complètement différent. La Chine est en train d'accélérer. Les États-Unis, c'est appel de phare 250-300 sur la bande gauche de l'autoroute et allez, on accélère toujours un peu plus vite. Et à la fin, ben, je me demande réellement ce qui pourrait se passer. Dans un premier temps, à un horizon de temps de 5 ans, on va dire, ça pourrait être énormément d'emplois qui vont être à la fois modifiés, voire tout simplement supprimés d'un point de vue justement de ces tâches liées à l'IA, qui ne se fatiguera jamais, qui pourra travailler en continu et qui apportera des réponses qui seront tout à fait satisfaisantes pour bon nombre de boulots aujourd'hui qu'on qualifie d'intellectuels quelque part. Et plus loin, à partir du moment où on arrive à avoir une IA qui sera 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois plus puissante que n'importe quel cerveau humain et qu'on pourra la répliquer elle-même à l'infini, est-ce que c'est pas quelque chose justement qui va nous échapper complètement et sur un scénario dans lequel on va se retrouver un peu comme ce fameux astéroïde qui arrive dans Don't Look Up et que tout le monde a vu venir, tout le monde a voulu prévenir et à la fin il y a tout le monde qui se dit oui non mais on est l'humanité, on est sur la planète Terre, il ne peut rien nous arriver et on est un peu dans cet abrutissement aussi sociétal qu'on peut d'ores et déjà observer malgré tout d'un point de vue de ce qui est en train de se passer en ce moment notamment sur X, on a la sensation qu'il n'y a plus aucune quelque part raison, qu'il n'y a plus aucune neutralité et que tout le monde est dans ce courant de pensée où il n'y a plus aucune résilience d'un point de vue justement société, où tout est devenu insupportable, où la moindre violence devient sur les réseaux sociaux extrêmement virale avec des récupérations politiques de tous bords et tout ce qui s'ensuit. Et donc plus on creuse sur cet aspect-là, plus on voit que le monde est polarisé et plus on se doute bien que l'IA et ce qui va en ressortir risque d'être tout autant polarisé et polarisante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peu importe sur quel pied on essaie de danser vis-à-vis de ce sujet, je pense qu'il y a un réel enjeu d'un point de vue à la fois société pour le court terme, mais surtout en termes de ce que ça va donner à partir du moment où on aura comme ça libéré un peu le Kraken et où on aura quelque chose d'immensément plus intelligent que nous, à un point qu'on peine encore aujourd'hui à se le représenter mentalement. C'est un peu comme quand on pense à l'extrêmement petit au niveau des atomes et de tout ce qui compose justement la matière ou les trucs comme ça, ou l'extrêmement grand comme l'univers, les années-lumière, le cosmos et tout ce qui va bien, on n'arrive pas, nous, avec nos cerveaux de primates, à se représenter justement certaines choses. Et bien là, c'est exactement pareil avec l'IA. À partir du moment où elle va commencer à réfléchir par elle-même et pouvoir s'améliorer de jour en jour à une vitesse mais littéralement exponentielle, je me demande justement ce qui pourrait aboutir derrière par rapport à nous autres, les humains qui, on le voit au travers du temps, peinons à avancer d'un siècle sur l'autre et manquons petit à petit justement un peu de discernement sur bon nombre de sujets. Bref, suite à ce laïus philosophique et bon, dans tous les cas, c'est un peu une digression, mais c'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui est nécessaire de rappeler qu'il n'y a que dans la mesure que nous trouverons le salut quelque part, puisque les extrêmes, peu importe de quel bord il soit, que ça soit politique ou non, puisque des extrêmes il y en a partout, ça se termine rarement bien, donc je ne peux que vous encourager, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou que peu importe où vous soyez, à adopter un ton qui est toujours correct envers les autres, à adopter également une attitude qui soit compréhensive, et c'est peut-être un biais qui est un peu plus justement comme le diraient les gens sur X de gauche ou je ne sais quoi, mais je suppose que pour les personnes qui sont notamment en France ou en Europe et qui ont été pour beaucoup élevés justement dans des valeurs telles que le stipule la République française de partage, d'égalité et tout ce qui s'ensuit. C'est un peu dommage aujourd'hui d'en arriver en effet à de telles extrémités où tout le monde a l'air de vouloir se tirer les uns sur les autres sur les réseaux sociaux et je trouve ça un tout petit peu dommage. Donc bien entendu, je ne peux que vous encourager à une certaine retenue vis-à-vis de ce que vous lirez et surtout de ce que vous direz sur les réseaux sociaux puisque oui, aujourd'hui, on a tendance un peu trop à oublier que petit à petit, malgré tout, quand on regarde les statistiques au long terme, le monde va mieux, le monde est un peu moins pauvre, est un peu moins violent qu'avant. Il suffit de remonter à quelques centaines d'années en arrière pour s'en convaincre et d'étudier un minimum l'histoire. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'au travers des réseaux sociaux, tout va très vite, tout se propage à la vitesse de la lumière et tout est polarisé et tout est explosif. Il n'y a aucune résilience de société. Il y en a beaucoup qui alimentent également ça en vue justement un jour ou l'autre, que ça soit du côté des États-Unis ou du côté de l'Europe, d'essayer de déclencher un semblant de guerre civile. Donc le but face à tout ça est, je pense, de rester un minimum neutre, de rester clairvoyant et de ne pas s'engager sur des chemins justement qui mènent un peu au côté obscur de quelconque extrémisme que ce soit. Et donc pour le crypto total, comme je le disais tout à l'heure, 4000 milliards, donc aux portes de l'envolée, 4180 pour l'ATH actuelle. Le MACD, peut-être que ça va être la fameuse touchette et repartir comme ça l'avait fait donc un peu ici autour de janvier 2024. On croise les doigts, bien entendu, pour que ça soit le top départ par la suite de la fameuse dernière poussée. Et du côté du crypto total 2, on est prêt, on est mûr à point. Les altes, c'est un peu le moment ou jamais. Le MACD était encore loin de croiser et le RSI est sur le pas de tir, juste sous les 70, qui pourrait nous conduire pour la trend long terme autour de 95-96, ce qui nous laisse quand même pas mal de upside ici si d'un seul coup ça part comme une balle. Donc je croise les doigts pour nous tous, bien entendu, pour que cet automne nous offre et vous offre enfin ce que vous avez attendu depuis environ 4 ans. Et au niveau de la Bitcoin dominance, on est à 58% aujourd'hui. On espère bien entendu qu'on ira s'échouer quelque part entre 50 et plus bas pour les plus optimistes d'entre vous. 115 000 pour le Bitcoin. On aura une zone dure encore à franchir par la suite à 120. Je pense qu'il redeviendra véritablement bull BTC à partir de 120. Et à partir du moment où on franchit les 125, ça se passera de 5 en 5, de 10 en 10. Et là aussi, comme on l'a vu bon nombre de fois, que ça soit d'un point de vue on-chain ou technique, la terminaison de ce cycle pourrait se trouver quelque part autour de 150 000 dollars, sans savoir justement à quel moment ça pourrait s'arrêter, puisque même les États-Unis, le souci, c'est que quand on regarde le S&P 500 et tout ça, ça nous fait de nouveau la tyrolienne et en général, ça ne dure pas indéfiniment. Ether, de son côté, a bien travaillé le support RSI autour de 60 hebdo et revenu backtester les 4000-4100. On est prêt, on est mûr, pareil, on veut pousser, on veut voir un nouvel ATH sur Ether et c'est ce qui libérera littéralement les flux et les capitaux et cet engouement peut-être qui reviendra à la fois d'un point de vue du FOMO institutionnel, mais surtout peut-être qui réveillera un petit coup et une dernière fois les particuliers. Du côté des taux américains, on a enfin une baisse un peu plus importante qu'à l'accoutumée, puisqu'en deux semaines, on est passé de 5% à 4,66% pour le 30 ans. C'est pareil pour le 20 ans, c'est pareil pour le 10 ans. Donc, plutôt une bonne nouvelle, c'est ce qu'on attendait et c'est ce qui est en train d'être pricé, tout en ne sachant pas exactement de combien pour l'instant la Fed risque de baisser. Le dollar qui continue de faire le yo-yo autour de 97,6 sur le DXY. Ceci étant dit, on a une contraction de volatilité sur le dollar. Donc il y a un moment où soit ça part réellement à la cave, soit on va avoir un rebond en 2026. 2026 qui, comme vous le savez, si on s'en fie à ce qui est en train de se passer actuellement, pourrait être placé en effet sur le signe de la stagflation. Le gold qui continue la fusée, c'est extrêmement vertical. On est venu chercher donc hier autour de 3670. Les futurs étaient déjà à 3700. Donc pareil, hein, ça il faudra attendre à minima une consolidation comme on a eu de avril à l'automne ici, ou bien derrière un réel décrochage, chose qui devrait venir tôt ou tard, puisque par le passé, notamment ici en 2011, on était à 1930 et ensuite jusqu'au point bas de novembre 2015. Donc ça a pris 4 ans quand même pour le gold à digérer. Il avait reculé de 46%. Et le précédent range, bon, on remonte à encore plus longtemps, puisque c'était autour des années 80. Un premier point bas autour de 82 à moins 66%. 85, on est à moins 67%. Il rebondit de 85 à 87, donc il passe de 286 à 500 dollars l'once, il rebondit de 76 et de nouveau derrière de 85 à le point bas ici de 99, donc 14 ans, il baisse de nouveau de 50%. Donc c'est un actif qui prend son temps, qui de temps en temps nous fait une trend extrêmement soutenue, bien entendu, et qui ensuite le digère pendant des années, voire comme au niveau des années 80, pendant des dizaines d'années. Vu comment se déroule l'économie aujourd'hui, je pense pas que le gold digère son prochain prochains mouvements, bien entendu, pendant 10 ou 20 ans. Mais on voit que pendant quelques années, suite à des paraboles comme ça, ça peut prendre son temps justement pour consolider. Et c'est là où le gold deviendra bien moins intéressant et attractif. Le CW8 et le WPEA pour la France, qui sont cotés en euros pour le MSCI World. Donc ça se passe plutôt pas mal. 580 pour le CW8. On a un ATH à venir chercher autour de 596. Ce qui pourrait nous aider à véritablement là aussi passer ce palier quelque part, ça serait d'avoir un dollar qui rebondit, l'euro qui s'affaiblit un peu, et donc mécaniquement on aurait ça qui rebondit. Et enfin le S&P 500 juste sous les 6600 points. On est désormais, si on prend de mèche à mèche par rapport à avril 2025, sur une performance de plus de 36% sur un indice qui est censé nous délivrer du 8% par an. Donc vous en faites ce que vous voulez. Là aussi, quand on prend de 2022 à mi-2023, on a imprimé 31%. Si on prend le point bas d'octobre 2023 à avril 2024, on a imprimé 29%. Si on prend le mouvement dans son intégralité, c'était 50% de octobre 2023 à janvier 2025. Donc on est véritablement sur un indice du côté des États-Unis qui, depuis 2020 et depuis qu'il y a eu cette impression monétaire complètement folle et cet envolé qu'on a connu à compter du Covid, puisqu'on est quand même passé de 2200 points à 4800 points, donc c'était une envolée de 120% pour le S&P 500. On a un marché qui est littéralement sous nitro, pour ne pas dire sous acide, j'ai envie de dire. Et quand on regarde comme ça, malgré tout, cette remontada express, ce RSI qui est en train de flirter avec les 70 de la zone de surachat, le MACD, ça fait déjà 2 mois que les histogrammes sont sur le déclin et qu'on pourrait croiser justement entre la fin d'année et début 2026. Je me pose énormément de questions. Quand on va avoir la digestion de tout ça, eh bien, il y a forcément un moment, et c'est un peu ce qu'anticipaient les JP Morgan, les Goldman Sachs et consorts, où de 2026 à peut-être 2028-2030, on n'aura plus des 30% annualisés, on aura été très mal habitué, et notamment la génération de nouveaux investisseurs à compter de 2020 qui n'ont vu quasiment que du only up au niveau des marchés. Il suffisait de racheter chaque dip pour gagner de l'argent, et ça, ça pourrait changer. À partir du moment où on a un marché qui potentiellement va nous faire un range entre 4008 et peut-être les 7000, allez, soyons fous. Là, je peux vous garantir que si on fait le yo-yo comme ça pendant 2 ans, 3 ans, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont commencer à littéralement perdre la boule. Et notamment dû au fait de ce manque d'expérience et du fait que ces 5 dernières années ont été extrêmement porteuses. Le Palladium qui petit à petit également retrouve la voie donc de la hausse comme on l'avait vu la dernière fois, et le Silver, 42 $ l'once, qui pourrait venir chercher bien plus rapidement qu'on ne le pense les 48 de son ATH et pourquoi pas les franchir pour continuer également de faire exactement ce qu'est en train de faire le gold. Après, bon, comme d'habitude, hein, y en a qui disent que voilà, on est sur une séance des enfers qui dure depuis les années 80. Je crois pas qu'au niveau du chartisme, ce genre de figure se réalise sur 40-50 ans. Donc je veux bien hein, que ça soit joli de tracer des tas séances en mensuel ou en trimestriel ou que sais-je, mais normalement voilà, c'est sur des time frames bien particuliers et beaucoup beaucoup plus raccourcis en général. Que se passe-t-il du côté des sociétés liées aux crypto? Eh bien on a Circle par exemple qui enfin a trouvé son point ici, et c'est marrant puisqu'il est venu travailler pile poil le 0,78. Il s'est arrêté net au niveau des corps de bougie, 113-114 $. On avait méché à 108, donc une belle reprise pour Circle qui pourrait se construire justement dans cette box entre 110 et la borne haute autour de 150 $. On a Canaan aussi au niveau des minières qui est en train de nous faire quelque chose de sympa en hebdo, juste sous sa zone de support qu'il avait pété à la baisse. Donc ça sera complètement libéré à partir du moment où on passe au-dessus de 94 centimes pour ne pas dire le dollar symbolique pour Canaan. Coinbase également, ça fait 3-4 semaines qu'il a travaillé autour de 290 $ et ça a été payé par le marché. Pourquoi? Puisqu'on s'approchait du 0,38 de Fibo, donc ce qui démontre qu'on est toujours dans une périodicité porteuse pour Coinbase. Ceci étant dit, 300 pour jouer quoi? 400-450. Bon, pour les traders aguerris, bien entendu, ça peut se tenter. Pour ceux qui font du long terme, on attendra d'avoir des prix beaucoup plus attractifs lors d'une future baisse importante slash bear market. Au niveau des actions américaines, pas plus pas moins, les porteuses continuent d'être voilà, soit un peu en positif ou légèrement en négatif, mais puisqu'on a un S&P 500 bien entendu qui est dans le vert, ça veut dire que pour l'instant les actions se portent bien, et notamment les actions de la tech. En tout cas on a Tesla qui est là aussi sur une zone relativement importante autour de 300 365 à 370 dollars. On a un ATH à venir chercher à 488 et on est dans une phase où malgré tout, on latéralise depuis très très longtemps pour Tesla entre 106 dollars et justement autour de 400 dollars. Donc ça fait un range qui est assez large que d'ailleurs on a retesté en janvier 2023. On est venu à 140 dollars en avril 2024. Récemment, autour de mars 2025, 213 dollars. Donc petit à petit, on a malgré tout une trend ici où on fait des points bas de plus en plus haut. Désormais, il nous faudra valider, bien entendu, pour re-rentrer dans une phase d'expansion, un point haut, plus haut que l'ATH et rentrer en découverte de prix. Là aussi, Tesla, aujourd'hui, j'ai autant de positifs que de négatifs à dire et le négatif serait lié directement, justement, à la personnalité d'Elon Musk. Donc, c'est assez difficile de naviguer autour à la fois de cette marque et de ce personnage complexe et sulfureux. Du côté de la bourse française, je voulais faire un petit arrêt aujourd'hui. On voit qu'on a du Kering, du BNP, de Air Liquide qui sont en positif, entre plus 2,42 et plus 1,57, mais je voulais faire un petit stop sur Schneider Electric qui aujourd'hui, au-delà du fait d'être un fournisseur, comme son nom l'indique, au niveau du matériel électrique et tout ce qui va bien, sont également positionnés pour tout ce qui est justement IA, data center et tout le sujet qu'ils ont pris à bras le corps. Donc c'est un peu finalement les choses sur lesquelles nous, en tant que spéculateurs avisés, on peut éventuellement avoir un semblant d'avantage pour justement cet avènement de l'IA. Parce que la problématique aujourd'hui, vous en doutez bien, c'est que pour nous, maigres petits particuliers que nous sommes, nous n'avons pas forcément accès justement aux tickets d'entrée qu'on peut avoir sur des OpenAI, sur des Mistral en France ou sur des trucs comme ça. Donc, le proxy quelque part est le moindre mal, c'est de se positionner sur des entreprises historiques qui, au long terme, ont une croissance qui est phénoménale. On l'a vu avec Air Liquide. Bon, Air Liquide, on n'est pas du tout dans l'IA. Mais là, pour Schneider Electric, on a véritablement une bonne partie qui désormais va être dédiée à ça. Et ce qui nous permet quelque part de toucher du bout du doigt cette exposition indirecte à l'IA. Après, ça reste risqué, bien entendu, de faire ce genre de pari, mais on voit que le marché, par rapport au point bas d'avril 2025 à 170 euros, on est à 230 aujourd'hui, on a un ATH autour de 272. Donc, quand on regarde la trend long terme, comme ça, de Schneider Electric, bien entendu, ça ressemble un peu à Air Liquide et à bon nombre d'autres. On est sur une société qui se tient vraiment plutôt pas mal. Après, bien entendu, les sociétés françaises, comme ça, pure et dure, on en a quand on est en France sur un PEA ou sur il y a beaucoup de Vinci, de Total, de Air Liquide, etc., qui reviennent souvent, du AXA pour le côté des assurances, BNP pour les banques. Il y en a qui préfèrent Société Générale, etc. Il y a tout le temps un peu les mêmes actions qui reviennent et qui sont les actions de bon père de famille, comme on dit en France. Mais ensuite, vous pouvez tout à fait dénicher d'autres proxys, d'autres pépites qui sont moins capitalisées, qui vous offriront peut-être moins de sécurité aussi au long terme. Et aussi, comme d'hab, il vous faudra vérifier si ça vous intéresse, si vous avez la possibilité d'avoir des dividendes, puisque certaines sociétés, d'ailleurs beaucoup en versent et d'autres non, et également tout ce qui est buyback, c'est-à-dire des sociétés qui rachètent des actions. Et encore que ça, en France, je ne sais pas si c'est la norme, mais du côté des États-Unis, notamment des superstars comme Apple, ils rachètent chaque année énormément d'actions, ce qui a permis de stabiliser considérablement l'action, quand bien même petit à petit, on a tendance à voir des chiffres qui, d'un point de vue de la vente des iPhones, par exemple, a tendance à diminuer ces dernières années. Et pour autant, comme on le voit, la confiance des investisseurs est toujours là. Et on a un Apple qui se tient plutôt pas mal, malgré tout. On passe au niveau des alts très rapidement avec le Borg de Swissborg qui, malgré ce qui s'est passé récemment, pour rappel, c'était via le prestataire Kiln de Swissborg qui s'est fait dérober 40 millions via API pour les Solana qui étaient stakés dans le contrat via Swissborg. Donc, je ne sais pas quelle va être la responsabilité engagée, mais en tout cas, ça n'était pas directement Swissborg qui était fautif face à tout ça. On va voir, on va suivre, et notamment le déroulement quant aux personnes qui sont impactées. En tout cas, pour le Borg de Swissborg, à partir du moment où on s'affranchira, bien entendu, des 30 à 35, 38 centimes, on pourra avoir une accélération. Et c'est d'ores et déjà ce qui est le cas du côté de BNB et de bon nombre d'autres, où on a eu vraiment des envolées qui sont assez conséquentes. Ceci étant dit, quand on l'a mesuré la dernière fois, par rapport au point bas du bear market de 2020, 2022. On a un BNB aujourd'hui qui est à peine à plus 390%, donc on est très très loin de raccrocher le wagon de la performance de Bitcoin. Et c'est là où c'est assez difficile de trouver quelque part des tokens ou des alts comme Solana. Solana qui, lui, sur ce cycle, force à ceux qui ont cru quand il était à 8$ ici, a réalisé quand même de mèche à mèche 3600%. Donc là, on a explosé littéralement, bien entendu, la performance du BTC. Et Sol en particulier, qui, pareil, à partir du moment où il est en train de revenir au contact des 240 à 270$, pourrait rentrer assez rapidement en price discovery. Comme d'habitude, faites attention à vous, puisque il y a des traders de breakout et il y en a d'autres qui vont FOMO et qui vont se faire pulvériser derrière. Donc faites assez gaffe à ça. Si vous êtes positionné, tant mieux. Courir après les trains, je ne suis pas partisan de ça, mais je comprends ceux qui préfèrent renforcer à la hausse. Ça n'est pas du tout ma manière de faire de mon côté, mais pourquoi pas, hein, s'il y en a qui sont à l'aise avec ça. Du coup, qui dit Solana dit également Jupiter à 57 centimes. On a le pas de tir pour sa part à 63-70 centimes. Belle zone de démarcation. On a deux ranges qui sont bien, bien distincts. Le Doge qui vient de casser son petit triangle ici à la hausse. On a eu un break très propre à 23 centimes. On est à 26. On a un point haut de décembre à 48, ce qui, là aussi, d'un point de vue du risque-récompense, peut être intéressant. Et un ATH à ce jour autour de 75 centimes pour l'ancêtre des mêmes coins. On a le Nio de Gnosis qui également a travaillé son support récemment, 130$. Il est en train de repartir 140. On est encore relativement bas. Donc là, pareil, en termes de risque ratio récompense, why not? Comme d'habitude, hein, ce n'est pas du conseil en investissement ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ce que j'ai en ce moment sous les yeux et qui me paraît un peu mieux que certains autres altcoins. Le AAV qui continue de temporiser autour de 300-315$. Pareil, la réalité d'une expansion pour AAV se passerait au-dessus de 350 à 400$. Donc pour l'instant, eh bien c'est pareil. Est-ce qu'on joue 300 pour jouer 350-400 ou est-ce qu'on joue le breakout acté des 400 pour viser pourquoi pas la TH autour de 600? Bon, je peine à croire que ça soit si facile, d'autant plus que là aussi on est sur un MACD qui est en train de s'affaisser. Mais voilà, je me pose quand même pas mal de questions justement de quels vont être les alts qui vont être choisis pour cette fin d'année. NIR, c'est pareil, on est dans une fin de congestion ici, dans un petit flag, donc à voir après le break qui pourrait se faire à 3$. Dans un premier temps, on aura une zone dure ici à 3,69, un premier FIBO à 4$, et ensuite on a les points de 2024-2025 autour de 9$. Donc pareil, hein, sans même viser un ATH qui est aujourd'hui à 20$ pour NIR, ne serait-ce que les points de printemps décembre 2024, ça nous offre un ratio risque-récompense qui est loin d'être dégueulasse. Pareillement pour Ondo, on est sous la zone de polarité ici autour de 1,10$, donc c'est le moment ou jamais pour Ondo de mettre le petit coup de rein. D'ailleurs, l'œil avisé, il verra potentiellement une épaule tête-épaule inversée. Alors c'est quasimodo, bien entendu, mais dans la physionomie, on a quelque chose comme ça qui colle plusieurs fois autour de la même zone. Donc clairement, si Ondo s'affranchit de ces 1$ à 1,10$, on pourra avoir une très très belle accélération avec un ATH aujourd'hui pour ce token qui se trouve à 2,15$. Chainlink qui a travaillé son support autour de 22-23$ et qui, pareil, essaie de se relancer. On a un point haut de décembre autour de 31$ et un ATH à ce jour autour de 52-53. Injective Protocol qui a longuement travaillé le support des 12-13$, 14 aujourd'hui. On aura une zone dure autour de 20$, une autre autour de 30 et un ATH qui est autour de 52-53. Je rappelle malgré tout que ce token par rapport à 2022 a déjà imprimé sur ce cycle 4600%. Fetch AI, pour ceux qui croient encore à l'IA, j'ai pas vérifié Tao, mais ça doit être approximativement pareil, qui travaille le support long terme autour de 58-60 centimes. Première zone dure autour de 90 centimes et on s'extirpera de toute cette énorme zone de consolidation autour de 1,20$ pour Fetch. Donc ça nous donne des zones qui sont plutôt clean quelque part et à voir si on a ce sujet de l'IA qui revient sur le tapis justement autour de cet automne pour la blockchain. Mana Decentraland, comme on l'avait vu la dernière fois, arrive en bout de contraction de ce triangle également. Donc il nous faudra franchir les 36 puis les 40 centimes pour espérer rallier la borne haute de ce range qui se trouve aujourd'hui entre 80 et 90 centimes. Et ensuite, voilà, on peut avoir potentiellement une accélération comme on avait eu à l'époque, à ceci près qu'aujourd'hui, bien entendu, je ne peux que vous encourager à faire attention. Justement, on n'est plus dans un 2020-2021 like. Donc les candidats, justement, au décalage important vont être triés sur le volet. Suis pareil, très belle contraction. Le truc, c'est que de nouveau, on est sur un actif qui a énormément performé sur ce cycle, mais qui se tient très bien, donc c'est plutôt propre. Hype, bah là aussi, a après la consolidation dans le grand range des $30 à autour de 50, on reprend la hausse. C'est trop jeune, ça, pour être exploité, en fait, d'un point de vue technique. C'est trop jeune également pour être exploité d'un point de vue des fondamentaux. Certes, ça aura été vraiment le sujet de ce cycle, quelque part, en marge des tokens IA, des agents IA, des meme coins et de tout ce qu'on a eu, qui ont été parfois des feux de paille. Mais pour moi, ce genre de projets se révéleront peut-être un peu comme Solana s'est révélé sur ce cycle, après la traversée de leur premier véritable bear market. C'est le baptême du feu pour n'importe quel projet et n'importe quel token, et c'est à partir de là où on voit réellement les ambitions de la team, s'ils sont aptes et promptes à continuer alors qu'ils sont assis sur un giga méga tas de fric à perdurer justement au travers du temps dans leur projet. Voilà, c'est le genre de petites questions que je me pose, mais tout en ne minimisant pas bien entendu l'aspect extrêmement positif de hype sur ce cycle. On a Mantle également qui nous a fait un nouvel ATH, $1.70, donc très très belle remontée depuis les 55-56 centimes, un projet qui en ce moment a l'air d'attirer les convoitises. Pendle également, qui est lié directement à Athena et à tout ce farming qui est en cours du côté de ce qu'on appelle tous ces stablecoins à rendement, donc yield bearing stablecoin. On a pas mal de choses à faire au niveau des points, au niveau justement des rendements qui sont associés. Là aussi, pour tout ce méga cosmos autour de Athena, de Pendle, du farming à gogo, des boucles et de tout ce qui est en train de se greffer de près ou de loin autour, on a vu l'enjeu latent et important que ça pouvait être pour tout ce qui est stablecoin et notamment les États-Unis. Mais je me pose la question fondamentalement pour ceux qui seront allés un peu trop loin justement dans ce genre de fond de terrier de lapin blanc, s'il ne va pas y avoir derrière quelques débouclages de positions un peu agressif le jour où justement le marché viendra à retracer un peu plus profondément. En attendant, le chart de Pendle, pareil, est loin d'être dégueu, bien entendu. Et je clôturerai avec AVAX qui est en train de résoudre donc cette zone des 26, allez, entre 25 et $27. On a passé la tête, on est venu chercher autour des 30. Pour l'instant, ça bloque. C'est une zone de polarité supplémentaire. D'ailleurs, on va se la dessiner ici autour du 0,618 de Fibo précédent. Donc, petite zone de polarité à 30. On espère que ça passera pour espérer rallier les 37, les 43, le point haut de décembre autour de 55, ainsi que celui du printemps mars 2024 à 65. Et on a un ATH aujourd'hui pour AVAX qui me paraît bien trop loin pour ce token, autour de $146. Donc toute notre zone de jeu, si alt-season il y a, sera quelque part entre 43, je pense, et $60-65 pour Avalanche. Comme vous l'aurez compris, ce mois de septembre, au final, pour l'instant, n'est pas si horrible que ça, mais c'est un peu la zone sur laquelle le marché crypto doit désormais s'exprimer de mi-septembre à mi-octobre, peut-être début novembre, et venir exploiter finalement tout ce pessimisme qu'on a pu voir du côté des réseaux sociaux. Moi, le premier, ça fait quelques semaines que voilà, je ne suis pas super optimiste quant au déroulement des marchés, et notamment quand je vois un S&P 500 qui n'a que faire des mauvais résultats du chômage, de l'inflation et de tout ce qui va bien, et on a cette poussée frénétique de tout le monde qui dit c'est bon, grosse baisse de taux, voire double baisse de taux, tout ira bien, tout va continuer de monter indéfiniment. Voilà, c'est ce qui me met un tout petit peu plus sur la retenue qu'au moment de ce fameux mois d'avril où on a eu les moins 20% sur les indices au moment des tarifs de Trump et où on a été les premiers sur la chaîne, que ça soit avec Samy pour la TradFi, il y a eu Tino également qui est intervenu et bon nombre d'autres intervenants pour vous dire ok, quand on prend moins 20% sur la TradFi tous les 3, 4, 5, 6 ans, ça devient intéressant pour payer le point bas, bien entendu. Et on l'a vu, ceux qui ont payé le point bas sur le S&P 500 aujourd'hui sont en positif de 36%. Le tout avec un marché crypto qui, lui, a fait pas mal le crabe, hormis ces dernières semaines, en effet, Ether qui a rattrapé son retard. Mais quand on regarde en termes de performance pure, on a toujours Bitcoin qui surperforme jusqu'ici très largement Ether, par exemple. Donc, mis à part ceux qui étaient par exemple sur Solana sur ce cycle ou quelques autres triés sur le volet qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main, voilà, c'était un cycle malgré tout qui était très difficile à naviguer. Et comme on le disait la dernière fois sur le Discord, malgré tout, au plus ce cycle est difficile et au plus il remet en perspective la facilité qu'on avait eue de 2020 à 2021 à gagner des sommes importantes, à gagner sur à peu près tout ce sur quoi on positionnait notre argent, là ça a eu un véritable impact de formation ce cycle pour nous rappeler que sur les marchés, rien ne nous est dû et que quand on a une performance en dizaines, en centaines de pourcents, c'est quelque chose qui n'arrive pas malgré tout sur les marchés tous les 4 matins. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'on ne se retrouvera pas ce week-end au vu de la longueur de cette émission qui n'était même pas prévue aujourd'hui. Comme ils disent les mêmes sur les réseaux sociaux, il en avait des choses à dire. Très bonne journée, très bon week-end et à lundi. Ciao, ciao.